Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
On dit encore Nouvelle Gauche, mais vous souhaitiez qu'on dise de nouveaux socialistes ?
Je souhaite qu'il y ait un alignement entre le nom du Parti Socialiste et les noms des groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc ce sera proposé.
Ouais. C'était pas du tout ma première question normalement, mais enfin bon, comme ça c'est fait. Le sommet de Singapour entre le président américain et Kim Jong-un est-il selon vous un succès à mettre au crédit de Donald Trump ?
Moi, j'en pense pas grand-chose. De manière générale, Donald Trump est capable de prendre des positions et d'y revenir dans la seconde qui suit. Donc c'est une mise en scène entre deux dirigeants qui sont potentiellement dangereux et pour lesquels je pense que la parole donnée n'est pas toujours très engageante de leur part. Donc nous verrons.
Vous pensez que ça n'aura pas forcément les conséquences pacifiques qu'on nous présente, notamment du côté des États-Unis aujourd'hui ?
Je pense que ça n'engage pas forcément à grand-chose. On a bien vu que la parole de Donald Trump était très fluctuante. Et quant à celle du dirigeant nord-coréen, n'en parlons pas.
La France a-t-elle failli ? A-t-elle manqué à son devoir en ne proposant pas d'accueillir les 630 migrants de l'Aquarius qui a été refusés par l'Italie et Malte ?
Oui. Oui. Hier, nous avons eu une leçon de géographie assez étonnante de la part du ministre des Affaires étrangères, puisqu'il nous a expliqué qu'il fallait trouver le pays le plus proche du bateau en question. Et je pense que la Corse me semblait plus proche que Valence, en Espagne. Voilà.
Oui. Enfin, le plus proche après l'Italie.
Après l'Italie, bien sûr. Après l'Italie qui a refusé.
Mais est-ce qu'il y a eu une forme d'instrumentalisation de cette affaire de la part du nouveau gouvernement italien pour marquer les esprits en disant voilà, maintenant nous sommes au pouvoir, c'est terminé.
Le nouveau gouvernement italien
a joué... Vous êtes d'accord quand le président de la République parle de cynisme et d'irresponsabilité ?
Je ne suis pas d'accord quand le président de la République parle de cynisme et d'irresponsabilité. Le cynisme et l'irresponsabilité, c'est de faire perdurer un système qui s'appelle Dublin, qui vise à dire en Europe, les réfugiés sont accueillis par le pays par lequel ils arrivent. Et c'est eux qui doivent prendre en charge toutes les formalités. Alors évidemment, tous les pays en bord de périphérie européenne, vous prenez l'Italie, vous prenez la Grèce, sont évidemment les premiers en ligne de mire, sans bénéficier de la solidarité européenne. Donc cette question-là, il y a eu une forme d'hypocrisie qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Clairement, la crise des réfugiés, c'est un sujet que l'Europe doit traiter et prendre à bras-le-corps et pas se renvoyer la balle des uns aux autres.
Emmanuel Macron va exposer aujourd'hui le cadre de sa politique sociale devant le congrès de la Mutualité française. Et dans une vidéo qui a été mise en ligne par l'une de ses conseillers en communication, le président de la République, qui prépare à cet instant son discours, tient les propos suivants, je cite, « Donc on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. On déresponsabilise, on est dans le curatif, il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils en sortent de cette pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Pognon de dingue, déresponsabilisation.
Je trouve que les propos ne sont pas, et le ton ne sont pas adaptés à un président de la République française. Encore une fois, la sécurité sociale, le soutien que nous faisons aux populations, c'est quelque chose qui a démarré avec le Conseil national de la Résistance. C'est un énorme acquis de la post-Seconde Guerre mondiale et des Trente Glorieuses, donc il doit être préservé. C'est vraiment notre modèle français, qui a des racines extrêmement fortes, et quand on est président de la République, on doit faire tout pour le protéger. Et je pense que ce type de propos n'est pas adapté à la situation actuelle.
Donc un président ne devrait pas dire ça.
Un président ne devrait pas dire ça, ouais. Exactement. Et un président devrait agir. Encore une fois, prévenir la pauvreté, c'est faire en sorte que chacun ait sa chance à l'école, c'est faire en sorte que la croissance économique soit dopée, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. On a vu les derniers chiffres de l'INSEE où on a un recul par rapport à l'acquis de croissance permis par le quinquennat Hollande, c'est ce qu'on observe, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Donc quand on est président de la République, on agit sur ce terrain-là, et je crois pas qu'on soit nécessairement attendu pour faire du commentaire de commentaire.
Alors le gouvernement et le président de la République cherchent de l'argent un peu partout pour réduire les déficits et pour rétablir les comptes publics. Des privatisations sont envisagées, Aéroports de Paris pourrait en faire partie. Est-ce que ce serait selon vous une erreur stratégique ?
C'est une très grave erreur. Très grave erreur. La France, si Aéroports de Paris est privatisé, la France serait le seul pays en Europe, hormis le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, le seul pays en Europe à avoir des aéroports qui n'appartiennent pas à la puissance publique de manière majoritaire. Là, on parle d'Aéroports de Paris, c'est-à-dire qu'on donne les clés d'entrée de Paris à une société privée. Et ça, c'est inacceptable. C'est vraiment un actif stratégique, un aéroport, puisque vous décidez des lignes qui atterrissent. Mmh. Enfin, vous organisez l'entrée dans la capitale française. Donc c'est inacceptable. Et encore une fois, la France, si ce schéma-là devait se produire, serait le seul pays en Europe à avoir des aéroports majoritairement détenus par des acteurs privés.
C'est un sujet sur lequel vous considérez que la souveraineté là doit rester française.
La souveraineté doit rester française. Hambourg est détenu par la ville d'Hambourg et la région. Munich, pareil. Francfort, les aéroports italiens. Il faut comprendre ce que signifie un actif stratégique. Et là, on est dans cette situation-là.
On pourrait imaginer une privatisation en la limitant à des investisseurs français, ou ça n'est pas possible peut-être dans le cadre...
Non, mais ce n'est pas une histoire d'investisseurs français ou pas français, c'est une histoire d'acteurs publics ou privés.
Ouais.
Donc... Et là, il faut que ça reste public.
Ouais. Les députés et les sénateurs...
Mais il est exact que le gouvernement est aux abois pour boucler ses finances publiques. Puisque ce qu'envisage le ministre, si jamais cette vente devait se faire, c'est uniquement de faire du désendettement de l'État, c'est-à-dire d'agir sur les finances publiques. Et forcément, quand on a baissé, supprimé quasiment l'impôt de solidarité sur la fortune, fait des chèques sur la suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires pour les salaires supérieurs à 152 000 euros, il manque des recettes dans les caisses de l'État, et donc c'est une manière de les combler.
Les députés et les sénateurs se sont mis d'accord lundi en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi de réforme ferroviaire. Le texte va être adopté aujourd'hui à l'Assemblée, il le sera demain au Sénat. Est-ce que c'est un combat perdu pour les cheminots ?
C'est surtout un combat qui marque un alignement entre La République En Marche et Les Républicains. Dans le texte qui sort de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la commission qui discute entre le Sénat et l'Assemblée nationale, toutes les avancées qui avaient été proposées par les sénateurs socialistes ont été retirées du texte. Retirées. Donc, c'est effectivement, on arrive à un point final sur la transformation de la SNCF en société privatisable, mais il reste néanmoins que la négociation de la convention collective est toujours en cours, et je souhaite vraiment que le gouvernement et les syndicats, les partenaires sociaux, puissent trouver un terrain d'entente sur cette question-là, ce qui signifie qu'il va falloir qu'il y ait une avancée des deux côtés.
Le Parti socialiste a lancé le week-end dernier sa consultation sur l'Europe dans la perspective des élections européennes de 2019. L'idée, c'est de demander aux Français ce qu'ils attendent de l'Europe. À quoi servent les partis si, au lieu de proposer quelque chose, une vision, ils demandent aux Français de leur fournir ? Est-ce qu'il n'y a pas un inversement des rôles ?
Oui, non, il n'y a pas d'inversement des rôles. Moi, je pense qu'il faut toujours donner la parole aux Français, aux militants. Mais il y a trois grandes questions qui peuvent se poser. C'est est-ce qu'on veut continuer l'Europe à 27 ou pas ? C'est-à-dire pour pouvoir avancer de manière efficace. Qu'est-ce que la France est capable de mettre sur la table vis-à-vis de ses partenaires ? Quand on construit quelque chose avec quelqu'un, on donne et on reçoit. Donc ça, ça paraît évident. Et puis le troisième volet qui paraît indispensable, c'est de faire des propositions pour résoudre la crise des réfugiés. On sait très bien que ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient ne va pas s'arrêter demain. Et donc, il doit y avoir une réflexion au niveau européen. L'Europe, elle ferait mieux de s'occuper de cette question-là plutôt que d'aller décider de la taille des bouteilles d'huile d'olive. Et je ne sais pas encore quoi.
Mais l'idée du Parti socialiste, c'est de tenir compte de ce que proposeraient les Français sur l'Europe, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je ne parle pas du Parti socialiste, mais du gouvernement, par exemple, voire le référendum de 2005. Donc, si les propositions des Français qui remontent sont à contrario de la ligne du PS, qu'est-ce que vous faites ?
Enfin, je vous rappelle qu'en 2005, le Parti socialiste n'était pas au gouvernement.
Oui, donc c'est la ligne de fracture au PS, elle existe toujours.
Mais elle existe à partir de ce moment-là,
d'ailleurs,
c'est exact.
Cette affaire va être pilotée par deux eurodéputés, l'un qui était favorable au non, l'autre qui était favorable au oui.
Exactement, mais vous avez raison de rappeler que 2005 est une ligne de fracture extrêmement importante au sein du Parti socialiste. Et donc je pense qu'il est effectivement temps de se poser la question, de savoir comment on continue l'aventure européenne. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment la poursuivre. C'est comment on fait émerger ce sentiment de citoyenneté européenne. Moi, j'ai envie de dire, je suis européenne, française et européenne. Mais c'est une identité qui est à part entière dans ce que je peux ressentir et ce que j'aimerais aussi qu'on puisse porter comme message.
Merci Valérie Rabault.
Merci à vous.
Bonne journée.